Immersion. Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
À Toulouse, la paroisse Saint-Nicolas le Thaumaturge, rattachée à l'archevêché des églises orthodoxes russes d'Europe occidentale, et la paroisse La Protection de la Mère de Dieu, rattachée pour sa part au patriarcat de Roumanie, sont, dans notre diocèse, les deux poumons de l'orthodoxie. Deux paroisses, deux histoires, deux langues, deux communautés, et parfois même beaucoup plus, et une seule et même église. Voilà ce que nous avons tenté de comprendre lorsque, début janvier, nous sommes allés rencontrer à Le Naguet, dans la paroisse roumaine où nous serons aujourd'hui, puis à Toulouse, avenue de Grande-Bretagne, où je vous amènerai la semaine prochaine, nos frères et sœurs en Christ. Heures, Le Naguet, un dimanche matin. Venu de Toulouse ou des environs et parfois même de plus loin, Albi ou du Gers, près de 80 fidèles se retrouvent pour l'Eucharistie dominicale dans la chapelle Notre-Dame des Sables. 2h30 plus tard, juste après l'office des défunts qui a suivi la liturgie dominicale, c'est le temps du repas partagé, en souvenir justement des personnes disparues.
Nicolas. Premièrement, je suis venu parce que nous fêtons, entre guillemets, la mort de notre maman, donc c'est la première année. Et puis deuxièmement, c'est toujours agréable de se retrouver entre chrétiens parce qu'il y a une bonne ambiance et que nous nous aimons les uns les autres.
Vous êtes roumain ?
Je suis franco-roumain. Et je suis français, mais d'origine roumaine. Je vis à Toulouse, exactement, dans le quartier de Jolimont.
Parce qu'il y a un certain nombre ici qui venait de beaucoup plus loin ce matin.
Oui, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont confié à moult reprises, même qui viennent du Gers, ils sont contents de venir dimanche à l'église pour se retrouver avec la communauté chrétienne.
Daniela, vous êtes roumaine aussi ?
Oui.
Et vous êtes ici en France depuis combien de temps ?
2 ans et demi à peu près.
Vous parliez français auparavant ?
Oui, je l'ai appris à l'école.
Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ce matin à cet office ?
Mais c'est difficile, c'est ce qu'on cherche, c'est la paix, l'amour, je ne sais pas.
Pour parler votre langue aussi, pour vous retrouver avec d'autres,
oui,
d'autres
ça
romains
aussi, ça aussi, parce que c'est important de se retrouver avec des gens de sa, de sa nationalité,
de sa culture.
De sa culture aussi, oui. Après, c'est plus que ça, c'est pas que pour ça, parce que j'ai des amis romains que je vois, et voilà, c'est pas... Je viens pas ici que pour les amis, donc... Enfin, pour moi, personnellement, l'église est devenue comme chez moi, à la maison. On dit, je vais à la maison, donc j'ai déménagé plein de fois, et je me sens plus comme à la maison chez moi, donc ici, oui, je me sens comme à la maison.
Maria.
Maria, vous êtes arrivée en France depuis combien de temps ?
Ça fait 10 ans.
Est-ce que je peux vous poser la question ? Pourquoi vous êtes venue ici en France ?
Pour faire mon master. Et puis je suis restée, j'ai rencontré mon mari rapidement et je suis repartie en Roumanie, je suis revenue et finalement je suis restée là avec lui. On a fondé une famille et on est là.
Mais vous venez le dimanche matin à cette messe orthodoxe roumaine. Vous venez parce que, bon, pour votre foi, comme vous avez dit Daniela, pour retrouver aussi une famille, une communauté ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, c'est pour la tradition. Et pour, c'est très important pour moi que les enfants communient. Mes enfants, moi, j'ai toujours communié, j'ai toujours été à l'église, j'ai grandi pratiquement à l'église. C'est comme ça en Roumanie. Tout le monde va à l'église le dimanche pendant les fêtes. Et je souhaite que mes enfants, même s'ils ne continuent peut-être pas cette tradition, ils n'ont pas forcément la même foi que moi, ils seront libres de choisir leur foi. J'aimerais qu'ils soient habitués à voir, connaître notre culture, notre tradition et notre croyance. Je souhaite que mes enfants me connaissent un peu plus à travers l'église aussi. Et on comprend aussi la culture d'un peuple par la façon de vivre. Et en Roumanie, les gens vivent à travers l'église aussi. Et ils se rencontrent pendant les fêtes. Les fêtes de noms, par exemple, en Roumanie sont très, très importantes. Elles sont aussi importantes que les anniversaires. Les gens, quand ils savent que, par exemple, on s'appelle Jean, pour la Saint-Jean, ils viennent chez toi, ils ne s'annoncent pas. Ils frappent à la porte et on fait la fête ensemble. On prépare à manger, à boire et on fait la fête. On ne sait pas qui vient chez nous, mais c'est la fête de tous les...
Ceux qui portent ce nom.
Voilà, de tous ceux qui portent ce nom. Et pour moi, c'est important, c'est une tradition, c'est une culture. C'est... Voilà. Après, chacun a sa foi. Et bien sûr, je prends plaisir aussi à rencontrer des Roumains parce que... je n'ai pas souvent l'occasion de parler roumain, même ici à l'église, comme il y a beaucoup de Français, on parle souvent français entre nous. Mm-hmm. Mais on se rencontre, on se voit.
De temps en temps, ça fait du bien.
Voilà, ça fait du bien, oui.
Émilie. Moi, je ne suis pas roumaine, je suis française. Mais essentiellement, c'est une communauté roumaine, avec quelques Français qui se sont convertis à l'orthodoxie à l'âge adulte, donc qui se sont fait chrismer et d'autres baptisés.
Tout comme Émilie, Jean-Paul S., diacre de l'église orthodoxe roumaine, que je rencontre dans la chapelle quelques jours auparavant, est français et converti.
C'est une histoire un peu compliquée, bien sûr, forcément. Si on passe d'un endroit à l'autre, c'est un peu compliqué, mais voilà, je suis orthodoxe depuis 2001-2002, je ne sais plus. Ben, je faisais partie d'une communauté de famille. Nous faisions partie, ma famille et moi, d'une communauté de famille et de célibataires. Peut-être avez-vous entendu parler de la théophanie. Oui. Voilà. Daniel Vigne, que vous connaissez sans doute, en a fait partie. On a été compagnons de communauté pendant 10 ans. Voilà. Et puis... l'histoire de cette communauté a fait que ceux qui l'en restaient est passé à l'orthodoxie dans les années 2000 et on est passé à l'orthodoxie avec eux.
Alina, est-ce que vous pourriez nous présenter cette communauté que je viens de rencontrer ce matin?
Alors, elle a été fondée par Père Timothée, qui actuellement il est évêque d'Espagne et de Portugal. Avant lui, c'était en octobre-novembre 2004. Avant lui, il y a eu quelques prêtres qui ont fait des célébrations ici sans pouvoir s'installer. Et à partir de octobre-novembre 2004, Père Timothée, il a été nommé recteur pour la paroisse de Toulouse. Et depuis 2004, on célèbre tous les dimanches, quasiment tous les dimanches, toute l'année, vacances ou pas vacances, on célèbre les cérémonies orthodoxes. Nous avons une communauté qui s'est agrandie petit à petit parce qu'au début il y avait pas beaucoup de monde, une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, là on a déménagé, nous sommes dans une configuration nouvelle depuis mois d'octobre 2015. On a eu un premier lieu d'installation au nord de Toulouse, à l'église Notre-Dame de l'Assomption, vers Barrière de Paris. Voilà, on est resté là-bas 6 ans. Ensuite, l'archevêché catholique nous a prêté la chapelle Saint-Antoine, du 20 rue Pharaon. Nous étions là-bas en 2008, avril-mai 2008, jusqu'au octobre 2015. Et à partir de octobre 2015, nous sommes ici. On l'a transformée parce que ce n'était pas du tout comme ça. C'était une église qui n'avait pas du tout fonctionné pendant des années. Et on a beaucoup travaillé, les gens ont beaucoup travaillé, moi très peu. Voilà. Et on a cet endroit pour 33 ans.
On a signé en juillet et on s'est dépêché vite de la mettre aux normes actuelles de sécurité pour recevoir du public.
Jean-Paul S.
Parce que depuis 2-3 ans, les normes ont beaucoup changé, sont devenues bien plus sévères. Et donc on a eu beaucoup de travaux à faire, très vite. En été, relativement, puisque les artisans étaient en vacances, mais ensuite, là, septembre-octobre, on a beaucoup travaillé pour que Monseigneur Marc, notre évêque local, local pour la France, puisse inaugurer cette église à la fin octobre, le 24.
Donc au départ, c'est une église catholique, une chapelle catholique. Oui. Il a fallu donc réaménager pour pouvoir célébrer le culte orthodoxe.
Plusieurs choses. D'une part, il a fallu satisfaire aux exigences civiles, du sens d'ouverture des portes, des moyens de communication avec l'extérieur, des moyens de... On a réinstallé l'électricité, on a installé les évacuations des eaux usées, les adductions d'eau, enfin voilà, on a fait un gros travail de fond. Et ensuite, réaménager, effectivement, vous ne la connaissiez pas auparavant, mais toutes ces empreintes en creux, là, c'était des vitres. Non pas des vitraux, mais des vitres. Mmh. Et donc, il y avait 24 vitres, là, ce qui fait que, d'une part, l'eau passait, elle finit par passer, parce qu'avec le temps, ça n'a pas été suffisamment surveillé, sans doute. L'eau finissait par passer. D'autre part, on arrivait en vue de l'hiver et on craignait d'avoir froid. Et puis aussi le vandalisme. Enfin, donc on a obtenu de la mairie la permission, l'autorisation d'obturer ces grandes vitres-là, enfin ce qui était des grandes vitres, et puis on a juste laissé des impostes losangiques là au-dessus.
Qui a un sens dans la liturgie,
Ça nous a précédé, c'était déjà comme ça.
Oui.
Mais c'est vrai que les orthodoxes ont plutôt l'habitude d'églises assez sombres, avec une lumière zénitale, pas trop de... C'est pas tellement les coutumes des vitres à hauteur d'homme, de femme, qui sont... ça faisait un très fort éclairage ici, à la fois, ça avait un côté séduisant, mais aussi c'était vraiment presque violent, quoi. En été, ça devait être même très chaleureux. Voilà, et froid l'hiver, bien sûr. On a modifié aussi le socle du sanctuaire. On a fait là aussi un très gros travail parce que c'était pas... Bon, ça convenait pas, voilà. Jusqu'à la fin octobre, on a beaucoup travaillé, vite, avec peu de moyens. Et donc là, on est un petit peu... Bon, les travaux vont reprendre, mais tout le VRD, la lavoirie, les réseaux, tout ça, c'est encore en plan, quoi. On va y arriver.
Donc vous avez fait appel à des artisans, à des maîtres d'œuvre. Vous avez travaillé vous-même, vous avez donné vous avez dans la communauté, il y avait des personnes qui avaient des talents.
On peut dire.
Voilà, c'est ça.
Avec ou sans talent, on a participé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par les fidèles eux-mêmes. C'est une église non pas nationale, mais c'est une église malgré tout quand même à 90% roumaine. Et donc les personnes sont assez attachées à leurs usages, ils sont attachés à un lieu de culte. Nous avons suivi ce qui nous était possible de faire, nous installer ici. Donc il y a eu vraiment une mobilisation importante. Voilà.
Donc une communauté, vous me dites, à une paroisse essentiellement, ou presque essentiellement d'origine roumaine.
Oui.
C'est une immigration, donc c'est une immigration très, très récente.
C'est la première génération.
Première génération.
Les Roumains en France ont commencé à arriver à la fin du 19e siècle, mais même la première paroisse parisienne, je crois qu'elle date de 1920, je crois. Mais ici, à Toulouse, les orthodoxes étaient représentés, l'orthodoxie était représentée par une petite église qui est dans l'avenue de Grande-Bretagne. Vous la connaissez, voilà, avec le père Alexis maintenant. Ça, dans les années 60. Mais les Roumains n'avaient pas leur église, voilà. Voilà, et donc maintenant ils ont leur église. Nous avons notre église.
Ce qui veut dire qu'il y a des différences dans la liturgie. Vous ne célébrez pas de la même manière. Si vous aviez besoin, vous avez eu ce besoin d'avoir votre église, bon, il y a l'aspect culturel, se retrouver, avoir une même langue. Mais est-ce que dans la liturgie, il y a des différences?
Entre orthodoxe roumain et orthodoxe du patriarcat œcuménique, non. Il n'y a pas. Chaque prêtre. Ah oui, tout à fait. Oui. Au mois de mars, il y a une vacance du prêtre, du père Alexis, qui va être remplacé par un prêtre relativement âgé. Je vais l'assister. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. On communique les uns avec les autres facilement. Et les particularités qu'il pourrait y avoir entre les célébrations roumaines et du père Alexis sont des particularités d'usage plutôt personnel, enfin des habitudes. C'est la même chose. Et normalement, alors ça je dis quand même, c'est un peu entre guillemets quand même, mais normalement, entre les célébrations orthodoxes, qu'elles soient serbes, bulgares, grecques, quiconque de l'orthodoxie, les liturgies sont les mêmes. C'est la liturgie de Saint-Jacques-de-Stone, avec une dizaine de fois par année, la liturgie de Saint-Basile. Mais c'est ça qu'on considère.
Proche donc de la paroisse Nicolas le Thaumaturge, la paroisse roumaine est également totalement intégrée dans la vie culturelle toulousaine. Alina.
Donc on reçoit tous les gens qui veulent participer aux offices, la porte est ouverte. Il y a des gens qui ont embrassé l'orthodoxie, simplement en rentrant et en restant à la liturgie, bien sûr pendant des mois et des mois, voilà. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que vraiment nous sommes partie intégrante de la société. On connaît plein de gens qui sont simplement sympathisants et qui viennent de temps en temps assister aux offices et discuter avec nous. Simplement, ils ont besoin de relations, des relations humaines et on est là pour eux et on s'entend très bien.
Donc ce n'est pas une communauté composée essentiellement de Roumains ou d'émigrés roumains.
Non.
Peut-être en majorité quand même.
Ils sont majoritaires, bien sûr. Je crois qu'ils sont, je ne sais pas vous donner un pourcentage, mais on a, je ne sais pas, une trentaine de Français. Voilà. Qui sont les Français, comme ils sont arrivés à l'orthodoxie, c'est surtout des intellectuels par leur recherche personnelle et tout ça. Donc ils sont très assidus, ils sont très pratiquants. Alors que les Roumains, ils sont plus ou moins fluctuants, ça dépend de leur travail, ça dépend de leur, leur vie sociale, et voilà. On a aussi des personnes, des Russes, très rarement des Grecs, ils n'ont pas une grande communauté, je crois, à Toulouse. Il y a aussi des Éthiopiennes, ce ne sont pas des Éthiopiennes, c'est des Égyptiennes, deux femmes qui ne sont pas là ce dimanche. Aguerre et sa copine, je ne sais pas, il y a un nom compliqué, j'arrive pas à le retenir. Et donc, il y a ces deux personnes qui sont égyptiennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des Géorgiens aussi, mais la plupart, ils vont à l'église russe. Nous sommes très amis, c'est nos frères en Christ, les Russes. Nous sommes très amis avec eux, on va chez eux, ils viennent chez nous, voilà. On est, bien sûr, on fait partie... intégrante de la vie culturelle toulousaine.
Est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu? Donc là au sol, vous avez placé des grands tapis. Et...
Ça, c'est un usage assez répandu chez les orthodoxes. Les gens passent passent la liturgie debout. Quelqu'un disait, je crois même que c'est Daniel qui disait ça, la liturgie, ça s'apprend par les pieds. Donc on reste beaucoup debout. Pour les personnes qui en ont besoin, bien sûr, il y a un peu de quoi s'asseoir, mais pas vraiment. Et donc, effectivement, le sol est souvent, souvent couvert de tapis. Oui. On a tous dans la tête des images de ces mamies qui, pendant le communisme, en Russie. Ah, il y a des processions,
il y a des processions,
oui.
Aussi.
Oui, il y a des processions. Mais dans le catholicisme aussi, vous aviez au moins des processions. Peut-être que ça date un peu.
Pendant les liturgies.
C'est-à-dire que on a dans chez vous, si je me souviens bien, c'est que les prêtres rentrent solennellement dans l'assemblée, dans la nef, puis dans le sanctuaire, voilà. Alors que là, le prêtre commence la liturgie, il est debout à l'autel, il est le dos au peuple, donc. Mais on a deux entrées dans ce qu'on appelle des entrées dans la liturgie, dans la divine liturgie, dans la messe. La première entrée, c'est l'entrée de l'évangile. Donc il y a d'abord une liturgie de la parole, mais ça c'est commun à nous. Mais pour inaugurer, pour ouvrir cette liturgie de la parole, le prêtre sort du sanctuaire avec le prêtre et le diacre, enfin le clergé, sortent du sanctuaire par la porte nord, viennent dans l'assemblée et se placent au centre ici pour faire rentrer l'évangéliaire solennellement dans le sanctuaire. Voilà. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, après la liturgie de la parole, il y a la liturgie des fidèles et la liturgie de la communion. Et à ce moment-là, les dons...
Comme tous les dimanches, le Père Daniel, arrivé le matin même de Paris, il repartira en fin de journée, célèbre l'office dominical. Comment, dans ces conditions, rassembler et donner vie à une communauté paroissiale?
C'est une bonne question, c'est une solution d'urgence, disons. Donc jusqu'à, je sais pas, l'année dernière, donc un prêtre a été toujours ici. Donc normalement, une paroisse fonctionne avec un prêtre qui est stable, qui est toujours ici. Mais à cause de son départ en Roumanie, donc je ne suis pas le recteur, je ne suis pas la personne qui assure donc la continuité de la paroisse. Puis il y a un diacre ici, le paroisse, qui donc fait les choses plus importantes pendant la semaine. Et en week-end, donc j'assure donc les célébrations liturgiques. Mais à mon avis, donc une paroisse fonctionne même dans ces conditions, parce que d'une part c'est la grâce de Dieu, d'autre part il y a les efforts des fidèles qui sont présents ici et qui nous aident beaucoup. Et puis, c'est l'aide de la communauté d'ici. Et donc, nous sommes très, très contents, en tout cas, de fait que notre vie paroissiale continue normalement.
C'est une communauté vivante, hein?
À mon avis, oui, très vivante. Nous ne sommes pas très nombreux, mais en tout cas, vous savez, donc, les communautés des Romains s'organisent comme ils peuvent, parce que c'est une église catholique. Nous sommes accueillis ici, donc... Oui, par la diocèse catholique. Puis nous sommes celui qui nous faisons nous-mêmes donc, l'espace ici propice pour nous. Mais nous sommes des petites communautés en train d'organisation, disons.
Et donc là, ce matin, les familles vous attendent. Vous allez préparer des baptêmes. C'est comme ça tous les dimanches matin?
Oui, après la liturgie, il y a toujours des demandes spéciales. Donc après, je dois partir pour faire un trissage, un office pour les défunts au cimetière. Il y a deux baptêmes qui doivent être préparés. Donc avant le baptême, nous faisons les préparations, les confessions et tout ça. Donc il y a toujours des confessions, des bénédictions de maison, nanana. Mais c'est le programme d'un prêtre, c'est normal d'être comme ça, oui. Le prêtre doit travailler, disons, les dimanches comme pendant la semaine, vous.
Si pour la communauté orthodoxe de rite roumain, ce dimanche matin est un temps de prière et de ressourcement, il est aussi ce temps de partage et de rencontre où la chapelle devient alors réellement lieu de vie.
À la fin, donc, on a souvent des agapes ou alors des panichides. La panichide, c'est une cérémonie dans la mémoire, ce qu'on a vu aujourd'hui, dans la mémoire d'une personne. Et on prie, vous avez vu le petit office, on prie pour son âme, pour soulager son âme. Et pour, voilà.
Hein? C'est vrai que c'était très, très émouvant et il y avait que très chaleureux en même temps.
Oui.
Vous êtes tous pris par l'épaule?
Oui, parce qu'on est tous une communauté. Et ce signe de mettre la main, en fait, on est tous unis. La personne qui est décédée, elle est décédée, mais elle fait partie de la communauté. Nous avons tous des gens décédés dans la famille, des amis, et au début de la liturgie, on les inscrit sur des feuilles de papier qu'on appelle ça les diptyques. On a une colonne, voilà, on a une colonne vivante, donc de famille, amis, voilà. On peut mettre des catholiques, des musulmans, mais on écrit leur confession, oui. Voilà, parce que c'est pas le même traitement au calice. Oui. Et puis on a la colonne on dit pas défunt, en français c'est défunt, mais en roumain c'est endormi, des gens qui sont endormis en Christ. Toutes ces personnes, elles sont des frères et des sœurs, et on met la main comme ça quand le chant c'est éternelle mémoire, pour dire qu'ils sont toujours avec nous et dans notre mémoire, et qu'on va aller nous aussi les rejoindre. Qu'un Christ nous appellera.
C'était donc un dimanche matin avec la communauté de la paroisse orthodoxe roumaine. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec celle de la paroisse orthodoxe russe. Une autre histoire, un autre parcours, mais une même et seule église.